Et à 19h17 sur France Inter, je vous laisse comme promis avec Marion Lourd. C'est le téléphone sonne jusqu'à 20h.
Merci et bonne soirée Anaïs Feugat, à demain. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accompagner ce soir sur France Inter, c'est le téléphone sonne.
France Inter. Marion Lourd. Le téléphone sonne.
Pas de vacances pour le virus. Hausse des contaminations, des hospitalisations, des entrées en réanimation. Plan blanc déclenché dans les hôpitaux de 4 régions de France. Conséquence, dès demain, un nouveau conseil de défense consacré à la Covid, au programme revue de l'arsenal défensif disponible. Et notamment, cette troisième dose, déjà injectée en Israël, bientôt en Allemagne. Dose de rappel du vaccin annoncé par le président français pour la rentrée. On devrait savoir demain qui elle va concerner, mais en France, dans notre pays qui compte 45 millions de primo-vaccinés, est-ce bien là la question d'actualité? Vaut-il mieux étendre la couverture au plus possible de Français ou concentrer la protection sur les plus fragiles d'entre nous ou bien encore piquer à tour de bras dans le monde entier? En Érythrée, par exemple, la campagne vaccinale n'a même pas commencé. Alors, la troisième dose de vaccin anti-Covid peut-elle enfin ralentir cette pandémie? Et si oui, dans quelles conditions? Question posée au téléphone sonne ce soir. C'est votre émission. C'est parti.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on démarre cette émission avec Lucie qui nous appelle de La Rochelle. Bonsoir Lucie.
Oui, bonjour, merci à vous et merci à vos invités. Ma question est la suivante. Je suis atteinte d'une maladie auto-immune, en fait une rectocolite hémorragique qui s'est cancérisée, donc j'ai été opérée. J'ai eu le traitement classique de chimiothérapie. J'ai été totalement vaccinée en février-mars avec le vaccin Pfizer. Je voulais savoir si j'étais éligible à une troisième dose dans l'automne ou est-ce qu'il fallait que je fasse une sérologie auparavant ?
Alors merci Lucie de votre témoignage et de votre question aussi. Pour vous répondre ce soir, deux invités avec nous en studio. Didier Houssin, professeur de médecine et président du comité d'urgence Covid-19 de l'OMS. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Et à distance dans nos bureaux de Lyon, Jacqueline Marvel, chercheuse au CNRS et au Centre d'infectiologie de Lyon. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'être avec nous. On remercie aussi Chantal Nouvelot qui assure la liaison technique depuis Lyon. Je vais peut-être commencer par vous, Jacqueline Marvel. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de Lucie? Est-ce qu'elle est concernée par une troisième dose éventuellement?
Bon, je suis pas médecin, donc je vais peut-être pas me lancer dans les réponses sur les traitements, mais ça paraît être une situation où une troisième dose sera peut-être prescrite, mais par son médecin. Je pense que c'est lui qui aura la meilleure visibilité sur la nécessité de refaire une dose de vaccin.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que le gouvernement peut décider demain? Est-ce que on a une idée des publics qui seraient concernés, en tout cas pour lesquels ce genre de dose serait utile?
Disons que c'est déjà une troisième dose qui est donnée, qui fait partie du protocole vaccinal pour les personnes qui sont immunodéprimées,
comme
par exemple les personnes greffées, donc auxquelles, en fait, dans le protocole de base, on donne déjà trois doses pour atteindre un niveau d'anticorps neutralisant qui soit suffisant que pour protéger ces personnes. Donc maintenant, si on se base sur ce qui a été décidé, je pense, en Israël, c'est de vacciner les gens qui ont plus de 65 ans.
Donc, les personnes âgées.
Les personnes âgées qui ont un système immunitaire qui peut être diminué, mais bon, c'est un peu compliqué d'évaluer ça personne à personne, et donc on met un cut-off sur l'âge et on vaccine les personnes les plus âgées.
Didier Houssin, vous avez une idée, vous, de pour quel public ça pourrait être décrété, décidé, cette troisième dose par le gouvernement?
Aujourd'hui, c'est clair. Il y a des circonstances médicales qui vont imposer, et je crois que notre auditrice rentre probablement dans cette catégorie de personnes qui, du fait d'une maladie auto-immune traitée, ont une immunosuppression importante et peuvent nécessiter une troisième dose. Ce sera à son médecin de lui proposer ou de ne pas lui proposer ce rappel. Par ailleurs, il y a également effectivement, ça a été dit, les transplantés, mais aussi certaines personnes ayant certains cancers, leucémie notamment, ou des lymphomes qui peuvent également nécessiter une troisième dose d'ores et déjà. Pour les autres personnes, aujourd'hui, le traitement est un traitement à deux doses. C'est-à-dire que les vaccins autorisés en France et en Europe notamment Pfizer, Moderna et Janssen, AstraZeneca, sont des vaccins à deux doses. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'avis des autorités de régulation, de l'autorité de régulation européenne, quant à la nécessité ou l'intérêt d'une troisième dose.
Et alors pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on en parle au niveau politique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'avis à ce jour ? Parce qu'il n'y a pas d'études qui existent ?
Effectivement, si vous regardez les messages publiés sur le site de l'EMA, l'agence européenne, mais aussi aux États-Unis, la FDA, les informations fournies, c'est qu'il n'y a pas assez aujourd'hui de données pour argumenter véritablement solidement ce rappel. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas. Ceci dit, je comprends très bien que le gouvernement anticipe cette éventualité et évoque cette perspective, mais qui pour l'instant n'est pas une décision prise, à moins qu'il y ait une décision prise demain. Mais je ne pense pas que, compte tenu des avis des agences de régulation, il puisse y avoir une décision aussi rapide.
Jacqueline Marvel, est-ce que effectivement on a des études qui existent montrant l'utilité éventuelle de cette dose de rappel ?
Alors, des études qui montraient l'utilité d'une troisième dose, il n'y en a pas, parce qu'on n'a pas encore immunisé les gens avec une troisième dose. Et les études sur les personnes vaccinées avec deux doses, on a finalement assez peu de recul, puisqu'on a commencé à vacciner en janvier, on a 6 mois de recul, donc on est quand même encore dans un intervalle de temps où la protection, le niveau d'anticorps, mais aussi les lymphocytes sont encore à un niveau très élevé, et donc basé là-dessus, on sait qu'on pense qu'en tout cas, il y a encore toujours une bonne protection. Donc, il faut qu'on attende, enfin, quelque part, il faut attendre d'avoir un peu plus d'éléments. Et donc, ça, il faut du temps pour savoir à partir de quand l'immunité soit va diminuer, soit le variant va évoluer pour que, d'une manière à ce que l'immunité ne soit plus efficace.
Autrement dit, si je me fais vacciner aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quand je suis protégée.
Ben non, parce qu'on n'a pas le recul et que c'est quelque chose qui, finalement, est assez difficile à prédire à l'avance. Mmh. Pour chaque vaccin, on a en fait une durée de protection qui est plus ou moins longue, mais qui a été déterminée par un suivi au cours du temps où on a pu dire, après autant de temps, ce vaccin-là, il est toujours protecteur ou il ne l'est plus. Et donc là-dessus, on cadre ensuite le calendrier vaccinal. Donc... Ici, on est un peu en terrain vierge, donc il faut qu'on... Quelque part, il y a énormément d'études qui se font à travers le monde pour à la fois suivre la réponse immunitaire et voir est-ce qu'on voit une diminution des taux d'anticorps ou des taux de lymphocytes. Et d'autre part, des études épidémiologiques qui regardent est-ce qu'on voit une augmentation des infections parmi les personnes vaccinées qui suggéreraient qu'on a une diminution de la protection.
Donc quand le laboratoire Pfizer dit avec une troisième dose, on arrive à des niveaux de protection 5 à 10 fois supérieurs, d'après vous, à ce jour, ce n'est pas crédible ?
Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que actuellement, avec le protocole d'immunisation avec deux doses, on n'a pas suffisamment de recul. En tout cas, jusqu'à présent, on pense qu'il protège bien. D'accord ? Par contre, quand on injecte une troisième dose, on va augmenter cette réponse et donc on pourra peut-être être plus efficace si on a un variant qui a tendance à échapper à la réponse. Qui était dirigée contre la spike, puisque ce qu'il y a dans le vaccin, c'est la spike du virus original de Wuhan. Mmh. Donc si on a un variant qui se modifie, donc on a en fait quelque part moins d'anticorps qui sont capables de reconnaître ce variant, et donc augmenter le niveau des anticorps permettrait de protéger mieux contre ces éventuels variants.
Alors Didier Houssin, effectivement, il y a la question de ce variant Delta qui est devenu majoritaire, en tout cas en France. Est-ce qu'effectivement, avec ce variant Delta, on peut envisager qu'une troisième dose soit utile ? Ou est-ce que il faudrait réfléchir à un nouveau produit, tout simplement ?
Je crois que le variant Delta, aujourd'hui, il a pour effet principal que le virus se transmet beaucoup plus et plus rapidement. On n'a pas observé de maladies plus graves, mais il se transmet plus rapidement. Et de ce fait, effectivement, aujourd'hui, on constate que les personnes hospitalisées sont dans la très grande majorité des cas des personnes non vaccinées. Donc, il ne faut pas perdre de vue, vous l'avez dit au début, d'ailleurs, la priorité des priorités, c'est bien d'encourager la population à se faire vacciner pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, avant de se poser la question d'une éventuelle troisième dose ultérieure.
Alors, cela dit, il y en a qui se la posent déjà, comme Mélie qui nous appelle de Paris. Bonsoir Mélie.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci.
On vous écoute.
Merci pour ma question. Voilà, j'ai plus de 65 ans, j'ai été vaccinée en AstraZeneca avec les deux doses en mars et mai. Et comme j'ai entendu dire que le vaccin AstraZeneca n'était pas très efficace contre le variant Delta, je je me posais la question de savoir si je relèverais éventuellement d'une troisième dose en Moderna ou en Pfizer.
Merci pour votre question, Mélie. Et Jacqueline Marvel, alors est-ce que effectivement, ça serait utile peut-être pour ceux qui n'ont pas eu des vaccins à ARN messager, qui ont eu soit les vaccins AstraZeneca, soit le vaccin Janssen, d'avoir un rappel avec une dose d'ARN messager?
Donc, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence dans la protection vis-à-vis du variant Delta entre les différents types de vaccins. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas s'inquiéter par rapport à ça.
Didier Houssin ?
Je crois que effectivement la question se pose, mais je crois que tant qu'on n'a pas d'études qui effectivement les anticorps semblent baisser plus rapidement après la vaccination AstraZeneca, mais tant qu'on n'a pas des données solides et avec un recul suffisant, je crois que cette auditrice doit simplement attendre, mais peut-être qu'elle fera partie, plus de 65 ans AstraZeneca, elle fera peut-être partie des personnes à qui il sera suggéré dans quelques mois de faire un rappel, c'est pas exclu.
En tout cas, il a été montré dans des études que quand on panachait les différents types de vaccins, ça pouvait être plus utile, y compris de la première à la deuxième dose, par exemple.
Plus utile, je pense pas qu'on puisse l'affirmer. En tout cas, que ça ne pose pas de problème majeur. Ça a été observé. C'était ça l'inquiétude. Est-ce que ça pose des problèmes? Mais effectivement, ça semble conférer une protection et surtout ne pas comporter de risques particuliers. Car effectivement, il y a eu, pour des raisons tout simplement d'approvisionnement en vaccins, de disponibilité de vaccins, des nécessités de, entre guillemets, panacher.
Alors Didier Houssin, là on est en train de parler d'une éventuelle troisième dose et du public qui va être concerné et dont on devrait avoir un peu plus de détails demain après le conseil de défense du gouvernement. Mais ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, c'est attendez un peu.
Moi, je crois qu'il faut comprendre les angoisses du directeur général de l'OMS qui constate que 4 milliards de doses ont été aujourd'hui administrées dans le monde, à 80% dans des pays entre guillemets riches, et que l'accès aux vaccins dans les pays pauvres, y compris pour les populations qu'on juge chez nous prioritaires, les professionnels de santé, les personnes les plus fragiles, eh bien dans beaucoup de pays, il n'y a pas accès à ce vaccin. Et donc, il faut comprendre l'anxiété du directeur général qui se dit « Et si les vaccins sont entre guillemets détournés pour être utilisé sous forme d'un rappel dans des pays, alors que peut-être ça n'est pas une nécessité absolue, ça risque d'accentuer le déficit de vaccination. Or, on sait que pour faire face à cette pandémie, il faut arriver à la contrôler quand même le plus largement possible au niveau mondial. Donc, voilà la problématique. Alors, c'est vrai que c'est pas une alternative aussi schématique.
Voilà, est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est vraiment un jeu de vase communicant comme ça, exactement?
Non, parce que tout dépend des niveaux de production de vaccins, de l'accessibilité. Et malgré tout, la production de vaccins a maintenant bien augmenté, donc c'est pas aussi mécanique, mais on peut avoir cette inquiétude, parce que après tout, les laboratoires pharmaceutiques peuvent avoir intérêt à vendre leurs vaccins plus facilement dans un pays qui peut payer facilement que de les donner à l'OMS, à l'initiative COVAX. Faut tenir compte de ces aspects-là.
Initiative de partage de vaccins avec les pays les plus pauvres. Et donc quoi? Et donc on attend jusqu'à quand en fait?
L'OMS a demandé, à mon avis à juste titre, un moratoire au moins jusqu'à la fin septembre pour que au moins 10% des personnes qui étaient, je dirais, dans ces pays pauvres, qui représentent les populations les plus à risque, puissent accéder à un vaccin. On est en route de ces 10%, mais on n'y est pas. Et donc, ceci dit, quand on lit les déclarations politiques, on voit bien que, y compris en Allemagne, en France, aux États-Unis, on parle de fin septembre. Enfin, on va
sans doute. Début septembre en Allemagne.
Hein. Mais septembre. Voilà, on est sur septembre, et donc, je pense que on va sans doute arriver à trouver un moyen de, je dirais, d'éviter ce risque d'aggravation du déficit de vaccins pour les pays les plus pauvres.
Éric,
j'espère.
Éric nous appelle du Var. Bonsoir, Éric.
Oui, ma question, elle était justement dans quelle mesure le moratoire de l'OMS sur la troisième dose peut s'appliquer à la France. Et je trouve que la réponse de votre invité est assez éloquente. C'est-à-dire que les laboratoires, ils savent qu'ils peuvent faire du pognon en France, ils peuvent faire du pognon en Europe, ils peuvent faire du pognon là où il y a de l'argent. Et puis quand il s'agit d'aller vacciner, disons, les Africains et les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour eux, c'est pas intéressant. On se rend bien compte dans quelle logique sont les laboratoires, quoi. Ils sont pas là pour nous soigner, ils sont là pour faire de l'argent.
Éric, si on vous répondait aussi que vous pouvez pas vous faire vacciner parce qu'il n'y a pas de doses disponibles en France, parce qu'on les a données à tel ou tel...
Non, non,
d'autres pays.
Non, mais attendez, il y a des doses disponibles en France. Vous venez de dire que 80%, enfin, reprenez les chiffres.
Oui, c'est Didier Hussain, effectivement, qui dit que 80% des vaccins sont...
Vous vous rendez bien compte que c'est une réalité, ce que je vous dis. Parce que si à l'heure actuelle, on veut à tout prix faire vacciner les gens avant, supposément, un traitement qui arriverait fin septembre, c'est parce que les vaccins, ils ont été achetés à prix fort. Et on sait très bien que l'industrie pharmaceutique, ils sont pas là pour nous soigner, ils sont là pour faire de l'argent, quoi. Enfin, repenser le Mediator, repenser le sang contaminé, repenser tout ce qui s'est passé dans l'histoire des laboratoires de Big Pharma, et vous vous rendrez compte que ces gens-là, la santé des gens, ils en ont rien à faire. Ils sont juste là pour faire de l'argent.
Alors, ça, c'est
la preuve, quand il y avait des vaccins qui étaient disponibles à faible coût, qui venaient d'autres pays, ils n'ont pas été homologués en Europe parce que ce n'étaient pas les copains qui allaient empocher la mise, quoi.
Alors ça, c'est votre interprétation, Eric. En tout cas, on va demander à Didier Hussain ce qu'il en pense, effectivement.
Moi, je trouve que votre auditeur envoie le bouchon un petit peu loin, quand même, parce que si vous voulez, autant effectivement, il faut être lucide sur la réalité économique. Les entreprises pharmaceutiques sont pas des institutions philanthropiques, mais pour autant, ce sont des professionnels de santé qui ont eu le grand mérite de mettre au point des vaccins. Et donc, je pense qu'il faut pas diaboliser la situation. Et je trouve que votre auditeur envoie le bouchon un petit peu loin.
Mais quand vous voyez que le jour même de la demande du patron de l'OMS, qui demande effectivement un moratoire, qui dit attendez jusqu'à fin septembre pour commencer éventuellement avec une troisième dose. On a Emmanuel Macron qui, juste après cette demande, annonce effectivement l'arrivée de la troisième dose en septembre en France. On a l'Allemagne qui nous dit début septembre, on va commencer à vacciner avec une troisième dose les personnes fragiles. Il est un peu brouillé le message, non?
Il est brouillé parce qu'effectivement, le sujet est complexe dans la mesure où effectivement l'OMS a une responsabilité mondiale, mais sans être un organisme de décision n'ayant pas les moyens. Il n'y a pas de gouvernement mondial, hein, vous le savez, ça je pense. Et donc, effectivement, les États sont souverains, ils sont soucieux de leur population, président de la République, de la population française, Madame Merkel de la population allemande, et donc ils n'ont pas envie non plus de se retrouver avec des grandes difficultés de personnes en réanimation, en train de mourir, etc. Donc, il y a un sujet difficile qui ne peut pas être facilement réglé dans un monde où les États sont indépendants et où il n'y a pas de gouvernement mondial sur un sujet mondial.
Et ça donne des pays comme le Canada, par exemple, qui a de quoi vacciner 4 fois sa population?
Oui, alors bon, bien sûr, les gouvernements ont essayé de sécuriser la situation, de ne pas se trouver en situation de pénurie, parce qu'il faut savoir que il peut y avoir aussi des problèmes de production. Un laboratoire pharmaceutique, c'est pas, on n'appuie pas sur un bouton et ça sort. Hein, c'est pas les fabriques de cornet de bif de Tintin en Amérique. Hein. Donc, il faut bien voir que il peut y avoir des problèmes de production, des problèmes de qualité d'un lot. On aurait pu se retrouver avec un accident industriel et tout. Donc, on comprend que les pays essayent de sécuriser leur approvisionnement. C'est leur responsabilité, hein.
Jacqueline Marvel, le risque en ne vaccinant pas une grande partie de la population mondiale, c'est de voir émerger des nouveaux variants éventuellement plus dangereux.
Oui, c'est un risque important, c'est de voir ce qui s'est passé en Inde, finalement, d'avoir un variant qui soit encore plus infectieux que le variant Delta. Et donc, ce serait peut-être un gain à court terme, mais pas du tout à long terme. Je pense que, par ailleurs, pour revenir sur le sujet précédent, bon, ben c'est clair que si on regarde la situation de l'Afrique, il n'y a quasi pas de doses qui ont été distribuées en Afrique, quels que soient les fabricants. Donc, c'est pas uniquement les fabricants qui ont servi l'Europe qui ne sont pas distribués, les autres non plus ne sont pas distribués. Donc, il y a effectivement un vrai problème, on va dire, éthique, de savoir comment est-ce qu'on peut répartir les vaccins et comment, effectivement, on peut faire pression sur les sociétés pour qu'elles donnent une partie des vaccins, effectivement, à l'initiative COVAX, pour qu'au moins on puisse protéger les personnels soignants, les personnels les plus sensibles, parce que la situation en Afrique, c'est que les personnels soignants ne sont pas vaccinés.
Donc COVAX, ça ne marche pas à ce jour.
Donc ça paraît quand même essentiel qu'on arrive à ça, et pour ça, je pense qu'effectivement, on a plus de vaccins qui sont produits, mais il faut continuer à augmenter la production. Il faut espérer que de nouveaux vaccins arriveront sur le marché et seront efficaces pour qu'on arrive à vacciner la population mondiale, qui est quand même beaucoup, beaucoup plus grande que la population de l'Europe et des États-Unis, quoi.
Alors Didier Hussain a réagi quand j'ai dit COVAX ne fonctionne
pas. Je pense que COVAX est une initiative extrêmement importante et ça marche autant qu'on lui donne de l'argent et des vaccins, ça marche, mais effectivement ça, il faut que ça marche beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Donc c'est un problème d'efficacité, de quantité, mais l'initiative est très importante et il faut surtout pas la critiquer, la condamner.
Christophe a appelé France Inter. Christophe nous appelle d'Athis-Mons en Essonne. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir. Alors,
nous vous écoutons.
Effectivement, oui, moi je m'étais préparé depuis plusieurs mois à l'idée que de toute façon et que la vaccination deviendrait annuelle, et je m'étonne qu'on n'en parle pas plus, parce que bon là on parle effectivement, on commence à parler de la troisième dose, mais je pense qu'il faut beaucoup plus préparer la population à une vaccination annuelle, puisque effectivement en quelques semaines, en quelques mois, on ne vaccinera pas 8,5 milliards d'habitants sur Terre, et que il y aura toujours des variants qui vont arriver à droite à gauche. Donc pour moi, je m'étonne qu'on n'anticipe pas déjà à préparer la population pour une vaccination annuelle, et puis bah tant pis pour ceux qui sont anti-vax, mais voilà quoi. Et puis juste une petite aparté, effectivement, on peut dénoncer qu'il n'y a pas de gouvernement mondial, comme disait votre intervenant.
Et il ne le dénonce pas, il le constate.
Il le constate, oui, bah je le constate aussi, puisque ça fait longtemps que j'en avais le sujet, mais là c'est pour un autre sujet, peut-être pour un autre téléphone zone, où on aurait besoin de ce gouvernement mondial pour la crise climatique avec le rapport qu'on a eu du GIEC hier, quoi.
Alors, il y a deux questions dans votre question, Christophe, mais merci en tout cas. Jacqueline Marvel, pourquoi est-ce qu'on ne prépare pas la population à une vaccination annuelle? Est-ce qu'effectivement, on peut imaginer que ça soit finalement comme la grippe, la Covid-19, et oui, qu'il faille des rappels tous les ans?
On peut tout à fait imaginer ça, mais je pense que de nouveau, faut pas oublier qu'on n'a pas vraiment encore complètement le recul sur cette épidémie. On a un an et demi, donc il faut un peu attendre pour voir comment la réponse immunitaire des personnes qui ont par exemple été infectées, comment elle évolue. Est-ce que les gens sont protégés pendant 2 ans, 3 ans? Un an, c'est peut-être un peu pessimiste. Peut-être qu'on pourra ne réimmuniser les gens que tous les 2 ou 3 ans, un peu en fonction de leur situation, de leur âge. Et donc, effectivement, on aura sans doute une vaccination qui sera nécessaire, mais de se connaître à l'intervalle de temps, il est un peu tôt que pour le dire.
Alors, quand est-ce qu'on peut imaginer avoir un peu de recul là-dessus?
Je dirais d'ici 2022.
Donc l'année prochaine, on saura peut-être s'il faut.
L'année prochaine, on aura un recul d'un an sur les vaccinations. On verra comment les réponses immunitaires évoluent. Et on aura 2 ans sur les personnes infectées. Donc on aura, je dirais, des réponses un peu plus précises sur des groupes un peu plus larges. Parce qu'actuellement, on a des réponses, mais c'est sur des petits groupes. Donc ça donne une vision qui est finalement assez peu précise et qui peut évoluer vers des perspectives plus optimistes ou des perspectives plus pessimistes. Mais pour ça, il faut un peu plus de temps.
Et est-ce que du coup, on peut imaginer aussi qu'il y aurait une sérologie qui soit faite de façon automatique pour mesurer le niveau d'anticorps et l'éventuel besoin d'un rappel?
On peut imaginer ça, mais je pense que de faire ça pour la population entière à un niveau individuel, c'est sans doute pas l'option la plus efficace. Par contre, de faire des études cliniques où on suit des groupes représentatifs de la population, ça pourrait être utile. Enfin, c'est en cours.
C'est déjà en cours, d'accord.
Oui, c'est en cours.
Didier Houssin, sur la deuxième partie peut-être de la question de Christophe sur le gouvernement mondial, alors on va peut-être reformuler un petit peu, mais est-ce qu'il faudrait effectivement une instance de gouvernance mondiale qui répartirait un peu mieux les doses de vaccins et qui permettrait une couverture vaccinale plus étendue?
On est face à un phénomène mondial. Une pandémie, c'est un phénomène mondial. Et effectivement, on voit bien, bien sûr, l'OMS a un rôle extrêmement important de leader, d'expertise, techniques, d'alerte, etc. Mais on voit bien que le fait que la responsabilité des décisions en matière de santé relève des États, et il y en a 193 ou 14 ou 15, je ne sais plus, eh bien ça crée des difficultés. On le voit bien pour les transports internationaux, pour la distribution des vaccins, pour tout un tas de décisions. C'est le genre de situation où on serait content, de mon point de vue, de disposer d'un gouvernement mondial. Je ne dis pas pour tout, mais pour ça, ça serait vraiment nécessaire.
C'est pas le rôle de l'Organisation mondiale de la santé, ça ?
L'Organisation mondiale de la santé, c'est une agence de l'ONU qui a un rôle technique, qui est également une organisation politique, mais qui n'a pas le pouvoir de décision. Les États membres n'ont laissé à l'OMS qu'une minime capacité de décision. Ils sont tellement jaloux de leur souveraineté que l'OMS n'a pas de pouvoir d'inspection, n'a pas de pouvoir de sanction. Donc, on est quand même dans un monde où le rôle de l'OMS est aujourd'hui quand même très limité. Je reviens juste sur le point qu'a dit Christophe, parce qu'il est très important.
La vaccination annuelle.
Oui, parce que malgré tout, il y a quelques jours, l'OMS et Gavi, l'Alliance pour les vaccins, se sont réunis justement pour commencer à réfléchir à cette question. Et Madame Marvel a parfaitement raison. Il se peut que dans un an, dans 2 ans, je ne sais pas, on se retrouve dans une situation assez proche de la grippe saisonnière. C'est un des scénarios envisageables, c'est-à-dire de dire aux gens de plus de 65 ans, il faut vous faire vacciner, par exemple.
Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce thème de la troisième dose, il nous arrive plutôt des laboratoires avec les demandes d'autorisation que de la communauté scientifique.
Oui, ça a été expliqué. C'est parce qu'on dispose peu de recul. On a peu de recul. On est dans une situation d'urgence. Les labos, ils ont raison de, ils sont bien obligés d'anticiper aussi les questions de production, etc. Et puis, comme ça a été dit, ils défendent aussi un objectif économique. Et donc, ils ont besoin de savoir quelles vont être les décisions politiques prises vis-à-vis de cet éventuel rappel. Donc, ils tirent la sonnette.
Donc, pour comprendre bien les décisions politique qui pourrait arriver au sujet d'une éventuelle troisième dose automatique, presque comme la grippe, est-ce que les décideurs doivent attendre qu'il y ait des études scientifiques probantes sur le sujet?
C'est le rôle des agences de régulation. En Europe, c'est l'Agence européenne du médicament basée en Hollande. Aux États-Unis, la FDA, il y en a dans les grands pays développés. Il y a malheureusement beaucoup de pays où il n'y en a pas. Et ce sont ces agences qui évaluent et qui ensuite disent, voilà, ce vaccin qui est autorisé aujourd'hui dans telles conditions, voilà la notice pour deux doses. Eh bien, à partir de dorénavant, il faut faire un rappel. On recommande un rappel. Et ensuite, les autorités sanitaires des États membres, eh bien, des pays prennent leurs décisions politiques, mais la parole est à l'agence de régulation d'abord.
Alors, on a une question de Meg sur l'application France Inter. Là, je vais me tourner vers vous, peut-être Jacqueline Marvel. Meg demande, que penser de l'explosion des contaminations parmi les vaccinés en Islande, à Hawaï, en Israël, etc.
Effectivement, il y a des contaminations parmi les vaccinés. Mais quand on a des situations où on peut comparer les non-vaccinés par rapport aux vaccinés, on a énormément plus de contamination parmi les non-vaccinés. Donc ce que ça indique, c'est que effectivement le vaccin protège, mais avec le variant Delta maintenant, on se retrouve avec un certain nombre de personnes qui s'infectent. La plupart des infections sont asymptomatiques ou faibles, mais on se retrouve quand même avec un certain nombre de personnes qui sont infectées par les nouveaux variants. Mmh. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Meg.
Je pense que ça répond effectivement à la question de Meg. On a aussi David qui nous dit « Je suis français vivant au Maroc, j'ai été vacciné avec le vaccin Sinopharm, ce qui m'exclut du pass sanitaire. » Effectivement, c'est un vaccin qui n'est pas reconnu en Union européenne. « Une troisième dose avec Pfizer ou Moderna est-elle possible ?» Jacqueline Marvel.
Je pense que oui, il doit pas y avoir de souci. Maintenant, est-ce que ça va permettre d'obtenir le pass sanitaire? Ça, je suis pas dans je ne connais pas suffisamment les règles, parce que il y a effectivement énormément d'exceptions. Donc, on sait que une étude qui a été faite ici à Lyon par le consortium d'immuno de Lyon, on a montré qu'en fait, quand on combinait AstraZeneca puis Pfizer, on avait une meilleure réponse immunitaire qu'avec Pfizer, par exemple. Donc, sans doute que Sinopharm et Pfizer pourraient aussi donner une très bonne réponse. Maintenant, est-ce que ça permet d'obtenir un pass sanitaire? Ça, je peux pas vous répondre.
Ça, c'est à voir peut-être avec la sécurité sociale.
Il faut voir comment ils ont fait le logiciel qui distribue les passes sanitaires, parce que ça revient un peu à ça.
Florence nous appelle de Mel. Bonsoir, Florence.
Oui, bonsoir.
Dans les Deux-Sèvres.
Voilà. Alors moi, je m'interrogeais sur le fait qu'on n'entend plus tellement parler du vaccin Johnson, de Johnson & Johnson. Serait-ce parce qu'il n'est plus satisfaisant pour le nouveau variant, ou qu'en est-il? Voilà, parce que personnellement, j'aurais préféré avoir un vaccin en une seule prise.
C'est effectivement un vaccin à une dose.
Oui, c'est ça, et qui est plutôt recommandé pour les gens au-dessus de 55 ans. Parce que, je vois autour de moi que les doubles doses occasionnent des autres vaccins, occasionnent quand même chez un certain nombre de personnes des réactions très violentes. J'ai moi-même un système immunitaire assez hyper réactif. Donc, je crains des choses du type zona, paralysie ascendante, etc., qui se manifestent chez un certain nombre de personnes. Voilà.
Merci.
Donc,
pour
qu'en est-il du Johnson?
Merci pour votre question, Florence. Didier Houssin, on n'en parle plus, c'est vrai, de ce vaccin?
On n'en parle plus, mais c'est un vaccin autorisé. Je ne sais pas quelles sont les quantités qui ont été commandées par l'Union européenne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les commandes prévues par l'Union européenne à venir sont essentiellement des commandes de vaccins à ARN messager, Pfizer, BioNTech et Moderna. Donc ça veut dire que clairement il y a une orientation de l'acquisition vers ce type de vaccin.
Et alors pourquoi ?
Pour des raisons sans doute de disponibilité, d'efficacité, de sécurité, peut-être de prix. Il y a toute une considération de production industrielle qui fait que l'Union européenne s'oriente clairement vers ce type de vaccin.
Alors justement, vous parliez du prix. C'est vrai que les laboratoires qui produisent des vaccins à ARN messager ont décidé d'augmenter leur prix. Mais à l'OMS, on est plutôt pour une levée des brevets pour essayer d'augmenter la production des vaccins.
Si vous voulez, la négociation qu'il peut y avoir avec les industriels sur l'achat des vaccins et sur les prix, c'est bon. D'abord, on n'est pas dans l'intimité. Moi, je ne connais pas l'intimité des contrats qui ont été passés. Ce qui est sûr, c'est que parmi les différents leviers qu'on peut activer pour essayer d'améliorer l'accès aux vaccins, notamment en Afrique, eh bien, il y a effectivement la question du don, il y a la question du prix, essayer d'avoir des prix bas. Certains ont évoqué de suspendre les brevets, en sachant toutefois qu'un vaccin, c'est pas fondé avant tout sur un brevet, c'est surtout un savoir-faire. On transfère pas si facilement le savoir-faire de fabrication d'un vaccin. Il faut toute une infrastructure, toute une formation, des personnels très 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 bien formés, des équipements. Et donc je pense que disons que la solution qui semble quand même la plus pratique, c'est quand même le don ou le prix bas du vaccin pour que ces pays accèdent à un vaccin.
En tout cas, dans un premier temps, oui. Peut-être. Nicolas nous demande sur l'application France Inter, êtes-vous au courant des montants de participation publique dans le financement des vaccins ? Vous êtes au courant, Didier Hossin ?
Participation publique, malheureusement, aux États-Unis, depuis déjà de nombreuses années, ils avaient mis en place un dispositif qui s'appelle BARDA, qui consiste à, pour l'État américain à financer la recherche, le développement et même de certaines premières étapes de développement industriel. Malheureusement, en Europe, on n'a pas été capable de faire ça jusqu'à récemment avec la création de HERA, H-E-R-A, qui est l'équivalent finalement, qui va permettre de faciliter avec des fonds publics le développement, notamment de vaccins vis-à-vis de nouveaux variants qui seraient susceptibles, et de faciliter également la mise en place de capacités industrielles. Donc, je pense qu'avec un certain retard dans l'Union européenne, on va parvenir à faire en sorte qu'effectivement, l'argent public serve à permettre la préparation à ce type de menace, ce type de virus, par exemple.
Et qu'il y ait peut-être assez de doses pour une troisième dose, si nécessaire. Bonsoir, Ali.
Oui, bonsoir. Merci d'avoir pris ma question.
Vous nous appelez d'Isère ?
J'appelle de l'Isère. Alors, je suis chercheur dans le privé. Je connais un peu ces aspects propriété intellectuelle. En fait, moi, ma question, je ne comprends pas. On parle toujours de la levée des brevets. Mais pourquoi les États ne se mettraient pas d'accord pour, disons, racheter la propriété intellectuelle de ces laboratoires, en l'occurrence Moderna ou Pfizer ? Et permettre à ce moment de donner les droits à toutes les industries pharma pour produire les vaccins. C'est-à-dire, au lieu de les pénaliser, c'est de pouvoir racheter cette licence et permettre à toutes les industries de fabriquer des vaccins.
Indemniser plutôt que lever les brevets, en clair.
Alors, voilà, exactement. C'est gagnant-gagnant. Hein. C'est gagnant-gagnant.
Gagnant-gagnant, d'après vous, Ali. Didier Hossin, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que malheureusement, la réalité de la production de vaccins, aussi notamment aussi technologiquement avancée que ces vaccins à ARN messager ou à vecteurs viraux, fait que ça n'est pas uniquement un problème de lever des droits de propriété intellectuelle. On voit bien, il y a actuellement une initiative qui a été prise pour effectivement permettre en Afrique du Sud la création d'une capacité de production de vaccins. Ben, voyons comment les choses vont se développer, mais je suis sûr que ça ne va pas se faire en 3 jours, parce que c'est compliqué de créer, de produire en sécurité, dans la qualité des vaccins de ce type.
Faut avoir les moyens de production. Jacqueline Marvel, on parle de la troisième dose depuis le début de cette émission, mais et de ce qu'elle pourrait apporter en termes d'immunité. Mais est-ce qu'elle pourrait être risquée ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une accumulation de produits dans le corps, dans le sang, une sorte d'overdose en quelque sorte ?
Non, ça je pense pas. Je pense que elle est pas plus risquée que les deux premières. Bon, on peut avoir les effets associés à la réponse immunitaire qui font que les personnes peuvent parfois avoir une fièvre transitoire ou avoir une douleur, un gonflement là où on leur a injecté le vaccin. Mais de là à être toxique, non, il y a aucun risque. Ça, c'est, il y a pas de risque.
Mmh.
Oui, pardon, c'est comme quand on fait la grippe chaque année, il n'y a pas plus de risque d'une année sur l'autre. Et je pense qu'il n'y a pas de raison avec ces nouveaux vaccins que ce soit plus dangereux que quand on fait un vaccin contre la grippe chaque année.
Didier Houssin souhaitait répondre.
Vous savez qu'aux États-Unis, ils viennent de proposer dans certains États $100 pour se faire vacciner. Joe Biden a dit tout récemment qu'à ce prix-là, lui, il serait prêt à se faire vacciner plusieurs fois de suite.
Alors, ils ont proposé plein de choses, hein, des loteries, il y a eu tout un tas de cadeaux. En tout cas, vous aussi, vous estimez qu'il n'y a pas de risque.
Non, enfin, il faut regarder les études et en fonction de l'évaluation qui sera faite. Mais a priori, on n'a pas de raison de craindre un risque particulier. Voilà, on n'a pas aucune raison aujourd'hui de craindre cela.
Jacqueline Marvel, Pascal nous demande sur l'application France Inter, comment est-ce qu'on distingue l'efficacité des gestes barrières et celle des vaccins? Comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses?
Comment on arrive à faire la part des choses?
À mesurer, en quelque sorte.
C'est en fait assez compliqué. Quand on a les deux en même temps, c'est vrai que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est dû aux gestes barrières et qu'est-ce qui est dû au vaccin. Maintenant, quand on fait des études où on a 50% de la population vaccinée, 50% qui ne l'est pas, et que on matche les personnes pour qu'elles aient des mêmes pratiques gestes barrières dans le groupe vacciné que dans le groupe non vacciné, on peut très bien faire la différence qui est liée au vaccin.
Didier Houssin ?
Oui, il y a eu une démonstration, je dirais quasi expérimentale, c'est que durant les premiers mois, on n'a eu que les mesures de santé publique, gestes barrières, pas de vaccin. Et on a bien vu qu'il a fallu confiner très fort pour limiter la transmission du virus. Aujourd'hui, on dispose de ces deux armes, il faut les utiliser toutes les deux, tant que la couverture vaccinale n'est pas suffisante.
Alors, j'en profite pour vous poser la question d'Oscar Didier Houssin qui demande « Est-il envisageable que les particuliers puissent financer des doses de vaccins pour les pays pauvres ?» Une sorte de financement participatif, en quelque sorte.
Il n'est pas exclu que COVAX soit ouvert aux dons. Ça, il faudrait poser la question à COVAX, à l'OMS. Ils sont peut-être ouverts aux dons, c'est pas exclu.
Mireille nous a envoyé.
Surtout si vous êtes Bill Gates ou quelqu'un qui a une capacité financière, ça peut devenir très intéressant.
Bon, Oscar, si vous êtes Bill Gates, allez-y, vous pouvez contacter l'initiative COVAX. Mireille nous a écrit d'Aquitaine pour nous demander pourquoi ne pas insister davantage sur le fait de faire un test sérologique pour juger de la nécessité d'un troisième vaccin. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Jacqueline Marvel. Vous disiez que peut-être au niveau individuel, c'est pas forcément la bonne solution.
Si, c'est une solution de voir si les gens ont toujours des anticorps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une corrélation parfaite avec le niveau d'anticorps tel qu'on le dose, où on regarde juste la quantité d'anticorps et la neutralisation, qui est en fait un test différent, où en fait on mesure la capacité des anticorps à bloquer l'entrée du virus dans les cellules, qui est un test un peu plus sophistiqué, et qu'on peut sans doute pas faire pour toute la population. Donc je pense qu'il est préférable de faire des études contrôlées sur des groupes de 10 000 personnes et puis en fonction de ça, d'identifier les personnes qui auraient vraiment besoin d'une troisième dose.
Nicole demande, est-ce que la corpulence des personnes change le nombre de vaccins qu'ils doivent recevoir? Jacqueline Marvel.
Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense pas qu'il y ait d'études qui aient montré que le système immunitaire était moins efficace chez les personnes corpulentes que chez les personnes non corpulentes. Et donc, je pense que, à ce que je sache, non.
Didier Houssin, il y a quand même le risque éventuellement lié à l'obésité, peut-être ?
Non, mais ça, que l'obésité soit un facteur de risque lorsqu'il y a contamination par le virus, c'est sûr. En revanche, que l'obésité suggère qu'il faille modifier la dose du vaccin, non. Je crois que Madame Marvel a raison, on n'a pas d'éléments qui suggèrent ça.
Alors Xavier nous a appelé de Grenoble. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci. J'aurais deux questions. En fait, pour ouvrir par rapport à la vaccination, je ne sais pas si vos intervenants sont un peu là-dessus, mais ce serait par rapport au traitement, en fait, soit préventif, soit curatif par rapport à ce Covid, par rapport au vaccin. Et la deuxième question, qui est aussi une remarque plus générale sur c'est par rapport à vos intervenants, on n'entend jamais ou très rarement de déclaration d'intérêt par rapport au laboratoire. Donc par rapport à vos deux intervenants, j'aurais aimé aussi savoir s'ils ont des intérêts et s'ils reçoivent de l'argent de laboratoire.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, merci Xavier, est-ce que vous pouvez nous dire Didier Houssin?
Aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, jamais d'ailleurs de lien d'intérêt. Et deuxièmement, concernant le traitement préventif, curatif, alors il faut reconnaître que cette pandémie, c'est quand même un grand échec de la mise au point des traitements préventifs, curatifs, comme on a eu par exemple avec le Tamiflu dans le cadre de la grippe, de la pandémie grippale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de traitement, qu'il n'y en a pas déjà, qui ont une certaine efficacité, notamment dans les formes graves. Mais finalement, en dehors de l'oxygène pour les personnes asphyxiques, c'est quand même, autant il y a eu un progrès formidable en matière de vaccins, autant on a été un peu faible sur la thérapeutique.
Oui, notamment quand on parle de l'ivermectine, ça ne marche pas ?
Non, alors il y a tout un tas de produits qui ont été essayés, mais qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. J'entends une preuve scientifiquement solide.
Jacqueline Marvel, vous avez des intérêts, vous ?
Non. Enfin, sur Covid, j'ai aucun intérêt industriel. Non, je suis payée par le CNRS, donc je suis payée par
l'argent public.
L'État français, et les financements qu'on a sont des financements qui sont donnés par l'ANR, l'université, le CNRS, l'INSERM. Donc pas d'intérêt.
Et alors, est-ce que vous pensez que éventuellement un traitement pourrait remplacer à terme le besoin d'une troisième dose ou d'une dose de rappel, d'ailleurs peut-être annuelle, hein, une quatrième, une cinquième, une sixième?
À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait de produit qui soit, dans un niveau d'avancement qui permettrait de remplacer le vaccin. Et pour la plupart des virus, quand on a un vaccin qui fonctionne, c'est quand même toujours l'option thérapeutique, enfin l'option préventive, qui est préférable par rapport à un chimique qui bloquerait le virus.
Merci Jacqueline Marvel, immunologiste au CNRS et au Centre d'infectiologie de Lyon. Merci Didier Houssin, président du comité d'urgence Covid-19 de l'Organisation mondiale de la santé. Je remercie également Pierre de Certaines, Adèle Domas et Zoé Fauché pour la préparation de cette émission. Merci aussi à Ronan Mahé et Henri Bérec aux manettes ce soir, ainsi qu'aux indispensables standardistes de Radio France.